Philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 22 avril 1986.
Après avoir parlé des immigrés, revenons à ceux qui sont à la maison. À la famille. Les deux grands aspects de la famille. Inséparable, comme fruit direct de l'amour de l'époux et de l'épouse. Et je crois qu'il faut bien comprendre que l'amour de l'époux et de l'épouse, comme source du foyer, représente l'état parfait du foyer. Ça n'a pas toujours existé. Et quand vous voyez certains mariages tels qu'ils se font encore maintenant, dans certains pays où c'est la famille qui choisit, on apprend que la famille a choisi pour vous une épouse. J'ai vu ça dans certains cas, pas en France. J'ai vu ça. La famille choisit. Et si vous regardez le livre de Forastier, sur le mariage, c'est intéressant, c'est fait du point de vue sociologique, mais c'est intéressant, c'est fait dans un bon esprit, l'esprit de Forastier. Eh bien, Forastier montre que c'est au fond assez récent. Quand vous regardez au point de vue théologique, la querelle au Concile de Trente entre les théologiens espagnols et les théologiens français, les théologiens français gallicans soutiennent que le consentement des parents est nécessaire pour la validité du mariage. Et les théologiens espagnols, s'appuyant sur saint Thomas, disent que le consentement des parents n'est pas nécessaire à la validité du mariage. C'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. enraciné dans le point de vue naturel de la distinction de l'homme et de la femme et de la coopération possible de l'homme et de la femme en vue de la procréation. Que cette communauté, si elle est parfaite, se fonde sur un amour d'amitié. Et que très souvent, cet amour d'amitié ne se réalise pas parfaitement. C'est un fait. C'est pas commode. Alors l'institution est là pour donner des béquilles. Il faut que ça tienne. L'institution est là. Quand l'institution est suffisamment forte, ça tient. Il y a des ébranlements d'institutions. Ça vit jusque dans tous les sens. Ce que nous voyons aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Et alors, à ce moment-là, on reprend la source profonde de cette communauté en voyant que c'est l'amour des conjoints. Oui, c'est dans ce sens-là que la crise d'aujourd'hui, au niveau famille, qui est pour la question du mariage. Au point de vue théologique, c'est net. Au plan philosophique, c'est moins net. Beaucoup moins net. Au plan philosophique, je crois qu'il faut toujours voir ces deux sources. Moi, je dirais les deux sources du mariage. Une source institutionnelle et une source d'amour personnel. Je crois qu'il y a les deux sources, philosophiquement parlant. Et que, de fait, la source institutionnelle s'est élaborée très vite. Vous la voyez partout. Tandis que la source de l'amour d'amitié entre les conjoints est quelque chose de beaucoup plus parfait et ultime. L'ordre génétique et l'ordre de perfection. L'ordre génétique, je dirais que la famille, d'abord, est d'ordre institutionnel. Génétiquement, c'est le caractère imparfait. Et ce caractère imparfait s'est enfui de la survie de l'espèce. On se marie pour avoir des gosses. La survie de l'espèce. On se marie parce qu'on s'aime. Vous voyez, les deux sources. Et il faut, je crois, garder les deux sources. Mais bien voir qu'il y a un ordre entre les deux. L'une est de l'ordre de la perfection. L'autre de l'ordre génétique. Le devenir et l'être. Je crois qu'au point de vue philosophique, il faut maintenir les deux. On retrouve au plan théologique le même problème. Forcément. Mais l'institution va devenir le sacrement. C'est le sacrement. Qu'est-ce qui objective le mariage? C'est le sacrement. Le sacrement, vous entrez dans la communion des saints. Par le sacrement, le mariage entre dans l'Église. Donc c'est l'aspect institutionnel d'une institution divine, pas extérieure. Et c'est évident que le point de vue chrétien a mûri le foyer et le mariage d'une façon très étonnante. Une fois qu'on a bien compris ça, les deux sources, je reprends parce que je n'ai peut-être pas assez souligné les deux sources, l'institution politique et puis l'aspect amour personnel. Si vous prenez ces deux sources, vous expliquez, je crois, toutes les diversités de la famille telle qu'on la trouve réalisée au cours des temps. Et le philosophe doit mettre un ordre dans cette diversité. Vous voyez, au niveau institutionnel, on peut très bien comprendre la polygamie. Pour des quantités de raisons. Grâce à la polygamie, il y aura plus d'enfants. Oh, c'est ce qu'il faut, c'est sauvegarder l'espèce. La polygamie. et que cet équilibre ne peut pas venir de l'État, mais de la famille elle-même. Dieu n'a pas donné un planning familial parce que tu es plus respectueux que l'État des personnes. Dieu n'a pas donné ça et Dieu ne le donnera jamais. Dieu laisse la responsabilité plénière à l'intérieur de l'amour. C'est du reste une des choses les plus étonnantes. Parce que c'est la famille qui a l'autonomie de son équilibre et que chaque famille représente une communauté particulière. Une famille n'a pas à imiter une autre famille. C'est quelquefois le danger, vous savez, dans les traditions familiales. Dans notre famille, on fait toujours comme ça. Ça, c'est le grand-père qui dit ça. Alors, ça doit être comme ça. Mais non, parce que ça change. Qu'il y a 100 ans. Beaucoup plus difficile. Étant donné de fait l'évolution. Alors on peut dire l'évolution est faite pour supprimer la famille nombreuse. Et alors, comme disait l'autre jour le cher évêque d'Agen, il disait le problème des vocations, n'oublions pas, il s'enracine un problème de la famille. Quand il n'y a plus qu'un seul enfant, c'est beaucoup plus difficile. L'Église plaidait la famille nombreuse, c'est que l'Église voyait que de fait, c'était beaucoup plus facile pour la grâce de Dieu de pêcher un petit poisson que quand il n'y en a qu'un seul, quand il y en a 153, ça va. On voit très bien ça, c'est très important, je crois ça aussi, ça c'est certaines lois. certains conditionnements. On peut mettre des obstacles. On peut essayer de favoriser. Mais la fécondité, comme telle, relève de l'amour et échappe à toute science biologique. Parce que ça relève de l'amour. C'est la plénitude de l'amour qui est source de fécondité. Ça peut être farouche là-dessus. Il faut comprendre que quand le biologiste prétend qu'il a un droit sur la fécondité, on a le droit de lui dire non. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la fécondité. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc il ne sait pas ce que c'est. Alors, avoir un droit sur quelque chose qu'on ne sait pas, ça ne signifie rien du tout. Et là, le philosophe doit être gardien de la fécondité et comprendre que c'est le foyer qui est responsable de la fécondité, et que c'est lui. Lui seul, il peut demander conseil, mais c'est lui seul, c'est pas le curé. Dieu n'a pas donné un planning familial. Alors quand le curé commence à s'occuper de ça, attention, attention. Parce que Dieu a une intelligence plus grande que celle du curé. Heureusement pour Dieu. Et heureusement pour les parents. Si on vous demande conseil, très bien, mais soyez toujours très discret. Et rappelez toujours que le problème de l'équilibre, de l'amour et de la fécondité à l'intérieur du foyer, c'est un problème propre au foyer. Et c'est un problème propre au foyer, c'est le problème des deux, pas d'un seul. L'époux n'a pas le droit de décider seul. C'est l'époux et l'épouse. C'est leur amour conjoint qui seul décide cela. Et qui peut seul décider cela. Autrement, ça devient de la tyrannie. Alors, le prêtre doit rappeler ça, il doit être gardien de la famille. Donc, il doit comprendre ce problème de la fécondité au niveau de l'amour, au niveau du don plaigné des corps. Qu'on ne peut pas se donner sans amour. Et c'est là où on doit aujourd'hui, en face de toutes ces techniques nouvelles, parce que c'est de l'ordre de la technique, voir ce qui est conforme à la finalité de l'amour et ce qui n'est pas conforme à la finalité de l'amour. Ce n'est pas au niveau moral qu'on doit juger ça en premier lieu. L'amour fonde la morale. Et l'amour va plus loin que la morale, puisque c'est la finalité. Et c'est dans la lumière de l'amour des conjoints. Vous voyez, parce qu'on a beaucoup trop moralisé tout ce domaine, qui est un domaine beaucoup plus foncier que la morale. Alors, il ne s'agit pas de dire on a le droit de tout faire, puisqu'on est marié. Et quand on dit ça, on veut dire qu'on a une domination plénière sur l'autre. Pas du tout. Vous devez vous respecter mutuellement comme un don. Que vous vous êtes fait mutuellement. Mais un don mutuel qui fait qu'on se respecte. Et si on est croyant, si on est chrétien, on comprend que c'est Dieu qui a choisi. C'est pas pour rien que dans la Genèse, on voit que Dieu présente Ève à Adam. Je crois que chaque fois qu'il y a des épousailles, c'est Dieu qui présente lui-même l'épouse à l'époux et l'époux à l'épouse. On touche une alliance fondamentale avec Dieu. Et donc on peut dire ça, c'est pas du tout une espèce de vision fidéiste, c'est la vision réelle. Parce qu'on touche à ce qu'il y a de fondamental dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme, cette capacité de s'aimer et de se donner mutuellement, source de la fécondité. Et c'est dans la lumière de cet amour qu'on doit essayer de comprendre l'équilibre d'un foyer. Mais en tant que prêtre, on rappelle les choses essentielles, on est très prudent. Quand il s'agit du choix, on aide. c'est du positivisme, tout simplement. On résout à partir de l'amour des conjoints, c'est un amour personnel. Et on doit montrer aux conjoints que la plupart du temps, ils n'ont pas éduqué leur amour. Pourquoi tant de divorces? C'est parce qu'ils n'ont pas éduqué leur amour. Ils sont restés à un amour sexuel, un amour sensible. Ils n'ont pas aimé vraiment. Aimer vraiment, c'est dépasser le sentiment. Et donc, c'est cette volonté d'aimer. Cette volonté d'aimer, cette volonté de se donner l'un à l'autre en vue de former une communauté et en vue de ce mystère de la fécondité. Donc, tous ces procès important et qui se pose aujourd'hui avec beaucoup de force. Est-ce qu'un foyer peut accepter cela? Ou est-ce que ça ne va pas briser leur amour au nom de la fécondité? Peut-il y avoir, au nom de l'efficience, je veux dire, peut-il y avoir efficience en dehors de la fécondité, en dehors de l'amour? Posez-vous ces questions, parce que c'est des questions qui sont absolument fondamentales. Vous voyez que c'est les rapports entre le fat géré et la durée qui prennent leur point le plus radical dans ce problème de la fécondité. Avec le problème de la fécondité et donc de la naissance, que c'est bien d'avoir fait ça. Et à sa petite sœur, à sa grande sœur ou à son grand frère. Il sourit à sa mère. Et le sourire, c'est le premier moment de l'incarnation de l'intelligence dans le sensible. C'est le premier moment, avant la parole. Il ne faut surtout pas supprimer le sourire. Parce que vous pourriez croire que vous êtes au milieu de petits singes. Tandis qu'avec le sourire, vous montrez que vous êtes avec des anges autour de vous. Vous êtes au milieu de personnes merveilleusement saintes, et c'est pour ça que vous leur souriez. Vous êtes au milieu de personnes qui sont vraiment dignes de vous, et c'est pour ça que vous leur souriez. Sourire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La philosophie du sourire, c'est le signe naturel éduque l'enfant et qu'on lui apprend les premiers gestes au point de vue de la nourriture. C'est une éducation qui est une éducation de la vie végétative, la nourriture, la respiration. Ça a beaucoup d'importance, hein, parce que c'est tout à fait le fondement. Et c'est la même chose par rapport au père. Ce n'est pas parce qu'il y a des pères violents que toute paternité est violente. Wow.